du Trisac.
Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
du Trisac.
Le Tassé est avec nous pour parler de politique étrangère. Monsieur Tassé, bonjour.
Salut Benoît.
Qu'est-ce qui est arrivé au président du Tchad?
Ça va mal pour lui, il est mort. Il est mort parce que il s'appelle Idriss Déby, 68 ans, c'est un dictateur, hein. on va pas quand même verser trop de larmes sur lui. Il venait de gagner ses dernières élections, les premiers résultats étaient sortis hier, donc il aurait dû continuer à gouverner, sauf qu'il s'est rendu au front, parce qu'il y a des combats entre des rebelles et les forces armées du Tchad. Ça, il y a eu des grands, violents combats ce week-end, et il a été tué. En fait, il est mort de ses blessures. Donc, étant donné qu'il a été tué dans les combats entre son armée et les forces rebelles, son fils a pris la tête d'un gouvernement de transition qui est dirigé par l'armée, et on a dissolu l'Assemblée nationale, rien de moins. Plus que ça, il y a un couvre-feu, et les frontières sont fermées. Alors, son fils a promis des élections dans un an et demi, mais en d'autres termes, son fils et l'armée ont profité de la mort de Monsieur Idriss Déby pour faire un coup d'État. C'est comme ça que ça s'appelle. Puis en plus, on peut rajouter que cette mort est très très suspecte. Tu sais, une mort comme ça au front d'un président qui meurt, c'est assez particulier. Alors, ceux qu'ils combattaient sont justement des gens qui s'appellent le Front pour le Changement et la Concorde au Tchad. C'est un groupe de rebelles qui a été fondé par des officiers de l'armée tchadienne. Et ces gens-là reprochaient à Déby sa répression lors des élections, parce qu'évidemment, les élections ne sont pas très libres. Et eux avaient une base en Libye. Je te dis, il y a eu de gros combats. Ce samedi, il y a 300 rebelles qui ont été tués. L'armée a fait 150 prisonniers. Et de son côté, il y aurait à peu près 5 morts et 10 blessés du côté de l'armée tchadienne. Donc, c'est vraiment une belle victoire de l'armée tchadienne. Mais le problème, c'est qu'il y a des rumeurs d'attaque des rebelles contre la capitale, N'Djamena. Et ça rend un peu tout le monde un peu nerveux, cette transition de régime, parce que le Tchad est le grand allié militaire de la France dans la région. C'est l'armée tchadienne qui souvent est aux côtés de l'armée française pour justement lutter contre des islamistes dans la région. Donc c'est pour ça qu'on surveille ça avec un certain intérêt. On se demande si le Tchad va continuer à être du côté de la France, je pense que oui, mais tu vois un peu le problème de déstabilisation qui peut arriver au Tchad et ce que ça pourrait entraîner dans la région si ce pays était déstabilisé.
Mmh. Mais en même temps, si c'est le fils du dictateur, je vois pas pourquoi les choses changeraient.
Je pense pas.
J'imagine qu'il y a de l'argent à faire quand tu mènes une dictature.
Oui, il y a de l'argent à faire, puis lui-même est un général 4 étoiles ou quelque chose comme ça, il y a 38 ans, donc oui, il devrait continuer à gouverner ce pays-là sans trop de problèmes. Mais quand même, c'est encore une fois, étant donné le rôle que le Tchad joue, en particulier contre les islamistes, il y a quand même une certaine nervosité, je pense.
Bon, la Chine
qui a un très grave problème de dénatalité. Bon, il y avait un problème déjà depuis les années 90, le début des années 90, le nombre d'enfants par femme était tombé en dessous des 2.1, tu sais, c'est le seuil qu'il faut pour renouveler une population, c'était à 1,7 depuis plusieurs années, ça aurait chuté à 1,2, puis même il y a des gens qui pensent à 1,1, on s'attend à ce qu'il y ait moins de 10 millions de bébés cette année, de nouveaux bébés cette année en Chine. Et là, le gouvernement commence à paniquer parce que il a pris ce gouvernement des mesures pour que les Chinois aient davantage d'enfants, mais ça marche pas. Les gens ne veulent pas avoir davantage d'enfants en Chine pour toutes sortes de raisons. Parce que par exemple, la population est maintenant urbaine à plus de 80%, et donc les appartements sont très petits en ville, parce que les enfants, ben, ça coûte cher à éduquer. En Chine, il y a une espèce de folie des cours supplémentaires qu'on veut donner aux enfants, parce que les femmes, eh ben, elles veulent pas s'occuper de leurs beaux-parents. C'est ce que la tradition veut en Chine, que normalement, la femme du mari s'occupe du père et de la mère du mari. Et elles veulent pas ça. Elles préfèrent pas se marier. Mm-hmm. Parce que dans les jeunes générations, il y a un déficit très important de femmes. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes parce qu'on préférait justement avoir des hommes parce qu'on savait que leurs épouses s'occuperaient de soi. Ça marche pas. Alors, il y a aussi l'effet de la pandémie, probablement, qui joue là-dedans, mais le gouvernement commence à se demander ce qu'il va faire pour financer les retraites, pour financer un tas de choses, parce qu'il voit ça arriver dans 20 ans. Il se dit, mais si on n'a pas suffisamment d'enfants, c'est sûr que ça va poser des problèmes dans les années qui viennent. Alors, je ne sais pas ce que le gouvernement chinois va faire, mais ils ont vraiment un grave problème de encore une fois, de natalité. Il manque de nouveaux nés.
La Chine fonctionne par interdiction. C'est un régime autoritaire. Ils vont interdire les capotes.
Ils vont les percer.
Ils vont bercer avec une aiguille. Bon, la liberté de presse qui recule dans le monde, Luc.
Oui, c'est le dernier rapport de Reporters sans frontières. Il y a 180 pays qui sont évalués. Et la liberté de presse est problématique ou inexistante dans 130 pays. En fait, ça a reculé un peu partout dans le monde. Il semble que les gouvernements aient profité de la pandémie de COVID-19 pour souvent faire reculer les libertés, et en particulier la liberté de presse. On voit ça par exemple en Arabie Saoudite ou en Syrie. Mais il y a aussi d'autres endroits où il y a des mesures qui font peur, en fait, parce qu'il y a des gens qui voudraient qu'on essaie ici. Par exemple, en Malaisie, il y a le gouvernement qui a fait voter un décret, enfin qui a décrété que désormais on ne pouvait pas publier de fausses nouvelles, et donc qui en a profité pour faire passer sa propre version des faits au détriment des autres versions des faits, et ça pose un problème évidemment. Il y a quand même quelques progrès au Mali, au Burundi, au Sierra Leone. Le Canada se situe assez bien, il est au 14e rang, la France au 34e rang, les États-Unis 44e rang, c'est pas si bon, mais ça reste encore parmi les bons pays. Les meilleurs, on s'y attend un petit peu pour la plupart, c'est la Norvège, la Finlande, la Norvège qui est en premier rang, la Finlande au deuxième rang, la Suède au troisième rang, au quatrième rang, le Danemark, et surprise quand même, le Costa Rica arrive au cinquième rang.
Ah ouais.
Il se hausse vraiment au cinquième rang. Les pires, alors là non plus, il n'y a pas beaucoup de surprises. Il y a Djibouti, qui est cette petite enclave africaine où ça va très mal. Au 177e rang, la Chine maintenant. Mmh. La Chine, un des pires pays au monde. Donc la liberté de presse se dégrade en Chine. Mais tu sais, c'est sur 180 pays, là.
Mais la Russie doit être pas loin du... La fin?
J'ai pas regardé. Oui, elle est probablement parmi les pires, mais elle n'était pas là exactement, tu vois. En 78e place, il y a le Turkménistan, la Corée du Nord en 179e rang, et le pire des pires, c'est l'Érythrée, donc en Afrique, qui va très très mal.
Bon, mais restons en Afrique. Ce qui se passe aussi à Cape Town, en Afrique du Sud.
Ça, c'est triste. Passe à Cape Town, je t'explique. Cape Town est une ville qui est dominée par une montagne très plate qui s'appelle Table Mountain. Ça a l'air d'une table, en effet. Sauf que cette montagne est ravagée par des feux de broussailles. Et l'université de Cape Town a été touchée. Des résidences étudiantes aussi ont été touchées. 4000 étudiants évacués. Bon, c'est triste, mais il n'y a pas une mort. Mais c'est la bibliothèque qui a pris feu. La bibliothèque de l'université de Cape Town a flambé en partie. Et là-dedans, il y avait des livres très rares, des documents qui n'existaient pas ailleurs, qui ont brûlé et qui n'ont pas été numérisés. Et donc, c'est une perte inestimable, semble-t-il, pour les études africaines, pour l'humanité, je te dirais en général. Il y a un patrimoine qui vient de partir en fumée. C'est assez terrible. Et donc, ça, si tu veux, je pense que on est tous inconsolables quand il y a une bibliothèque qui prend feu. C'est arrivé là. Et t'as aussi, c'est presque plus d'importance, t'as 17 tours résidentielles qui ont été évacuées de Cape Town, parce que c'est quand même un grand incendie qui est en ce moment à Cape Town. Donc voilà la nouvelle.
Puis je lisais aussi plus tôt ce matin, Loïc, Monsieur Navalny, qui est l'opposant de Poutine, qui est en prison. Et là, les médecins refusent l'accès de Monsieur Navalny aux médecins. Il y a une série, il y a un documentaire là, sur l'espionnage sur Netflix là, qui parle de la série de meurtres et d'attentats contre les opposants de Poutine. C'est ahurissant. Là. Poutine ne se gêne pas. Là. Il fait presque ça devant tout le monde.
Oui, il s'en vante presque. Évidemment, il le fait pas quand même. Là, il dit pas c'est moi qui l'ai fait. En fait, quand ça marche pas, ça, ce qu'il dit, c'est oh ben vous savez, si c'était mes services secrets qui l'avaient fait, ils n'auraient pas raté leur coup. Par exemple, avec cet espion en Angleterre, etc. Ou encore avec Navalny, c'est ce qu'il a dit. Mais non, effectivement, on en a parlé hier. Poutine est quelqu'un qui élimine les opposants, les journalistes, les gens qui le critiquent, et ça pose un problème très très réel en Russie. Et donc effectivement c'est assez mauvais signe que ce qui se passe avec Navalny. On dit qu'il ne mourra pas, mais c'est pas du tout sûr qu'il ne meure pas de sa grève de la faim. Moi je pense que de toute façon s'il meurt pas de ça, il risque de mourir d'autre chose, ce pauvre Navalny, assez rapidement.
Et on peut gager que ça sera pas une mort naturelle.
Mais non, important. Tu dis là, faut regarder des deux côtés de la rue quand on traverse. C'est...
Ouais, ou quand tu te fais piquer par un poison avec un parapluie, ou
oui,
quand tu te fais empoisonner, en mangeant de la soupe,
Tu t'étouffes, c'est terrible.
C'est pas, t'as des croutons.
Chaude, tu sais, quand tu vas dehors, puis tu sais, tu t'appuies sur un balcon, vérifie que la rampe est bien solide avant de t'appuyer.
Exactement.
Tout le monde fait ça, évidemment. Ouais.
Ils sont juste imprudents, les opposants de Poutine. On vient de vérifier, la Russie 150e sur 180 pour la liberté de presse.
C'est pas étonnant.
C'est pas étonnant pantoute. On s'arrête là-dessus, Loïc Tassé. Merci. À demain.
À demain.